Coucou Lisa, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Bah écoute, ça va plutôt bien. Je suis contente qu'on ait la possibilité d'enregistrer notre premier épisode depuis le temps qu'on en parle.
C'est clair, oui. Enfin, nous voilà enfin réunis et comme on avait prévu, nous allons aborder notre premier sujet qui est le Black Love.
Oui, sujet très très vaste. Dis-moi toi, ça t'inspire quoi quand je te parle de Black Love justement?
Pour moi, le Black Love, c'est l'amour et l'acceptation de soi en tant que personne de couleur noire. L'acceptation aussi de ses origines et l'amour de son peuple dans sa globalité. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est tout le contraire de l'anti-noir, quoi.
D'accord. Ok, bah écoute, c'est intéressant d'écouter ton point de vue. Moi, je t'avouerais que le Black Love, en fait, pour moi, c'était un concept qui était un peu flou. Parce que bon, c'est un hashtag que je vois passer depuis quelques années sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram, avec un hashtag Black Love, Relationship Goals, tu vois, ce genre de truc. Mais ça me paraissait un peu flou parce que c'est vrai qu'en France, j'ai très rarement entendu parler de Black Love. Je sais pas pour toi, hein, mais en tout cas... Après, c'est vrai que la France, c'est une société où on considère qu'il n'y a pas de couleur.
Oui, donc excuse-moi de te couper. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, Black Love, c'est un terme américain qui est utilisé par les Américains, c'est ça ?
C'est un terme, on va dire, anglais, puisque je pense que c'est aussi utilisé par les pays anglo-saxons. Mais oui, c'est surtout utilisé à l'étranger, en tout cas pas en France.
Pourquoi on l'emploie alors, ce terme outre-Atlantique ?
Bah écoute, j'ai fait quelques petites recherches. En fait, on va dire, pour contextualiser, déjà, il faut parler un peu d'histoire. Donc on va revenir un peu sur l'histoire des États-Unis. Donc en fait, il faut savoir qu'à l'époque de l'esclavage, en fait, les Noirs n'avaient pas la possibilité de se marier. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas considérés comme citoyens à part entière. Donc, ils n'avaient pas le droit de se marier.
Ah oui.
Donc, ils avaient mis en place un système qui s'appelle « jumping the broom ». En fait, littéralement, en français, ça veut dire « sauter par-dessus le balai ».
D'accord.
Donc, c'était en fait une cérémonie qui leur permettait de s'unir, on va dire, de façon symbolique. Mais ils n'avaient pas la possibilité de se marier. Et en fait, ce sceau représentait un peu l'engagement. Et il est toujours présent aujourd'hui dans certains mariages afro-américains, puisque ça fait vraiment partie de leur culture. Ouais, ouais. Donc, mais ils n'avaient pas forcément le droit de se marier. Et puis, il faut aussi savoir qu'un esclave, durant sa vie, il était vendu à peu près 4 ou 5 fois. Donc, pour la cohésion familiale et pour créer un foyer familial durable, bah, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, les Noirs aux États-Unis ont grandi, en fait, dans ce contexte-là. Et ce qui, après, par la suite, a, on va dire, amplifié le fait que les relations entre Noirs étaient mises en avant. Puisqu'avant, ils n'avaient pas le droit de se marier, de s'unir, ça a créé vraiment un mouvement de réappropriation de leur histoire et aussi de le fait de s'unir ensemble. Et donc, le Black Love, en fait, c'est aussi un jour qui a été créé en 1993 par une femme qui s'appelle Ayo Andy Candy. Et en fait, c'est un jour qui a lieu avant la Saint-Valentin, donc la veille de la Saint-Valentin, le 13 février.
D'accord. Donc en fait, aux États-Unis, eux, ils célèbrent le Black Love, comme nous, on peut célébrer en France la fête des amoureux, la Saint-Valentin.
Ouais, voilà, exactement. Parce qu'en fait, cette femme, elle expliquait qu'elle a créé le Black Love Day parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans la Saint-Valentin. Pour elle, c'était une fête donc qui était destinée majoritairement à des personnes blanches, ou en tout cas c'est ce qu'elle avait constaté. Donc, mais vraiment pour on va dire résumer, aux États-Unis, en tout cas le Black Love, c'est vraiment un mode de vie, c'est un état d'esprit, c'est une affirmation de l'appartenance à un groupe ethnique. Donc c'est vraiment un tout. Par contre, en France, je pense que
oui, non, mais
c'est vraiment différent.
C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi nous en France, on ne ressent pas le besoin du coup de célébrer ce Black Love? Nous, on ne le fait pas, on ne célèbre pas. On célèbre la Saint-Valentin, mais pas le Black Love. Et le Black Love, du coup, ça a une signification beaucoup plus forte pour nous, personnes de couleur noire.
Oui, bah, je pense qu'en France, c'est vraiment différent. Déjà, d'une part, parce que l'histoire des personnes donc, issues des communautés noires sont différentes des Afro-Américains. Parce que bon, la présence des personnes d'origine africaine ou antillaise est surtout due à l'immigration. en tout cas pour les personnes africaines, d'origine africaine. Et donc, on n'a pas du tout la même histoire que les Afro-Américains. C'est vrai que nous, au final, on n'a pas eu ce... comment expliquer ce... cette chose qui faisait qu'on était, on était empêchés de s'unir. Donc, on n'a pas eu forcément besoin de se réaffirmer.
D'accord.
Et il faut aussi dire que bah, l'esclavage, en fait, en France, ne s'est pas passé sur le sol français. Donc, il n'y a pas aussi ce besoin vraiment de se réaffirmer par rapport aux Français blancs et de leur dire, bah voilà, on s'aime, on a envie de se montrer. Enfin, tu vois, c'est un peu différent. Bon, après, c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer, je pense, parce qu'on est vraiment dans deux sociétés avec des modèles qui sont très différents.
Oui.
Mais voilà, en gros, pour dire qu'en France, le Black Love, ben, c'est pas du tout la même chose qu'aux États-Unis.
D'accord. Alors du coup, Bailly, est-ce que tu peux dire que le Black Love en France peut trouver sa place ou trouve sa place? Est-ce que dans les rues, on a plus l'impression de voir des couples noirs ou est-ce qu'on n'a plus du tout cette notion de Black Love?
Bah, en fait, je pense qu'en France, tu as des personnes qui sont d'origine africaine, d'origine antillaise, donc voilà, des personnes issues des communautés noires qui se mettent ensemble. Ils vont pas forcément dire « on est dans un black love », tu vois, on n'a pas ce besoin d'étiqueter nos relations. Après, tu as des personnes qui vraiment ont envie d'avoir une certaine réaffirmation de leur appartenance ethnique, réaffirmation dans l'appropriation de leur histoire. Mais c'est pas comme aux États-Unis, parce que c'est vrai que ce qui pourrait être un peu dérangeant, c'est que les gens vont se dire, mais en même temps, l'amour, ça s'étiquette pas, tu vois, tu peux pas dire, voilà, tu es amoureux, hashtag black love, tu vois, il y a des gens, je pense que ça les dérange, et en France, c'est pas un truc qui est encore répandu, mais ça commence un peu, enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, de voir de plus en plus de personnes qui vont te dire, voilà, moi, je mets en avant le black love... Mais bon, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, ça c'est sûr et certain.
Donc, c'est quand même assez marrant ce que tu me dis, c'est qu'on ne revendique pas un amour, un couple noir, unicolore, je sais pas si on peut le dire comme ça. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on revendique beaucoup les couples mixtes.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est marrant ce contraste, c'est que oui, effectivement, quand les personnes sont dans un couple mixte, là par contre...
C'est valorisé, on le voit partout, comme si ça par contre, il fallait le mettre en avant ou... Enfin ça, c'est ma sensation, quoi. Effectivement, le black love, non, mais la mixité par contre, elle est mise en avant.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais je voulais aussi, par rapport à justement, parler en fait de tout ce qui peut plus ou moins bloquer, dans le sens empêcher de vivre un black love en France, qu'on essaye un peu de revenir sur, par exemple, certains stéréotypes qu'on peut avoir, ne serait-ce nous, femmes noires, envers les hommes noirs, mais aussi les hommes noirs envers les femmes noires. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, c'est clair. Je pense qu'on peut y passer des heures et des heures.
Mais bon, on va essayer de ne pas trop s'étaler. Et surtout, de ne pas faire trop de généralité. Parce que franchement, le but, en fait, ce n'est pas de dire, voilà, vous devez aimer telle personne, vous devez rester entre vous. Non, ce n'est pas du tout. En fait, nous, on essaie juste de se poser la question.
Oui, on essaie juste de comprendre, en fait, comment on fonctionne, comment on voit les choses. Et on observe et on décrypte, mais bien sûr, il n'y a aucun jugement et chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour juger, on est d'accord sur le principe.
Oui, on va essayer de ne pas faire trop de généralité, même si quand on va décrire certaines situations, on sera amené justement à englober un peu et à décrire des situations qui peuvent paraître généralisantes, mais c'est pas le but premier. Voilà.
Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, le terme « Angry Black Woman », excusez-moi pour mon anglais. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Le terme « Angry Black Woman », c'est encore un terme anglo-saxon. Mais ça, je pense que malheureusement, il y a aussi une transposition en France.
Oui.
Avec quand, par exemple, certaines personnes vont te dire que les femmes noires... ce sont des niafous, par exemple, tu vois.
Mais c'est quoi ce mot ? Moi, j'ai jamais entendu ce mot avant.
Ah, c'est vrai ?
Non.
Si, moi, j'ai déjà entendu. Bon, après, c'est pas forcément black angry woman, mais c'est un peu le même style, c'est-à-dire un peu des filles qui voilà, qui parlent fort, qui se maquillent beaucoup, qui ont des cheveux un peu
ouais, des fatous, voilà. Quoi, nous on appelait ça des fatous ici.
Voilà, mais tu vois, rien que d'appeler ça des fatous, je trouve que c'est hyper dégradant, parce que bah déjà fatou c'est un prénom, et en plus
oui voilà, elles ont pris cher les fatous, ça c'est
oui
sûr.
Voilà, et puis en fait c'est essentialiser les femmes noires, parce que je suis désolée, on n'est pas un bloc monolithique qui est totalement uniforme, enfin il y a autant de femmes noires qu'il y a de personnes, enfin je veux dire c'est... Donc du coup, oui, effectivement, le stéréotype qui revient le plus souvent, c'est en fait de dire que, en tout cas de la part des hommes noirs, aussi des autres hommes, mais on va plus parler des hommes noirs là pour l'instant,
oui.
C'est en fait de dire que les femmes noires, elles sont sauvages. Donc je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais...
Bah surtout beaucoup quand on était plus jeune, mais je pense que ça se traduit de toute façon quand on devient adulte, puisqu'on le remarque. On ne se met pas en couple entre nous, nous on n'a pas le black love pour dire... On est plus dans la mixité. Donc je pense que oui, ça se ressent quelque part. Quelque part, toute cette dévalorisation de la femme noire a des répercussions sur les relations amoureuses quand on devient adulte. Les hommes noirs fuient les femmes noires. Et ouais. Vice-versa.
Oui, oui, non, non, c'est vrai que c'est dingue. Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, en fait, ils vont nous reprocher souvent d'être trop sauvage, d'avoir trop de caractère. Mais par contre, dès qu'ils sont avec des femmes qui sont issues d'autres communautés, là, tout de suite, ça passe. Tu vois, si la femme, elle parle fort, si la femme, elle a un fort caractère, bah là, tout de suite, en fait, c'est pas une sauvage. En fait, c'est juste une femme forte. Enfin, tu sais, c'est ça qui est triste.
En fait, c'est sexy et valorisant quand c'est une femme d'une autre ethnie qu'une femme noire.
Voilà. Enfin, une autre ethnie, d'une autre communauté. Plutôt.
D'une autre communauté, oui.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est assez dingue et je trouve que c'est vraiment dommage. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que par contre, quand t'es pas du tout dans ce schéma-là, quand au contraire, tu es une personne, on va dire, je dirais pas normale, parce que qu'est-ce que c'est la normalité, mais en tout cas, une personne qui essaye d'être, on va dire, dans l'air du temps, là, tout de suite, on va te dire, et ça, tu le connais, on va soit te dire que tu es une bounty, que tu te prends pour une blanche. Et là, tout de suite, ça leur plaît pas non plus. Donc, en fait, je me demande, mais qu'est-ce qu'il leur faut ? Parce que tu vois, si par exemple, tu parles bien, tu dis pas de gros mots, t'essayes de te cultiver un minimum, là, tout de suite, on va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu te prends pour une blanche, en fait, tu vois ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, on n'arrive pas à trouver notre place par rapport aux hommes noirs.
Ouais.
C'est soit on est trop noir dans notre façon d'être, soit on est blanche dans notre façon d'être. On peut pas être juste nous-mêmes. Et...
Oui, oui. Non, et ce qui est triste, c'est que tu vois, t'as même des hommes noirs qui vont te dire de toute façon, moi, je peux pas me mettre avec une femme noire parce que ça va me faire. Enfin, je vais avoir l'impression de sortir avec ma sœur. Oui. En fait, je comprends pas ce.
Oui, ça, j'ai déjà entendu ça, et évidemment, je trouve ça complètement ridicule. Je trouve que c'est un raccourci très facile, et c'est aussi une façon de pas se poser les bonnes questions, quoi. Je suis avec ma sœur, non, quoi, t'es juste avec une personne de ta communauté.
Oui, voilà, c'est ça. Franchement, enfin, après, c'est des questions qu'on se pose, et je dis pas que tous les hommes noirs réfléchissent comme ça, mais c'est vrai que c'est un constat qu'on a fait. Et c'est vrai que moi, j'ai posé la question à certains hommes noirs de mon entourage, mais pourquoi est-ce que vous avez pas forcément envie de vous mettre avec des femmes noires ? Enfin, qu'est-ce qui vous bloque et tout ? Et en fait, en gros... j'ai eu plusieurs réponses, mais en fait, j'ai eu une personne qui m'a dit, moi, quand je me mets avec une femme noire, elle trouve que je suis trop cultivée, que je me prends pour un blanc. Donc là, c'est le schéma inverse.
Ouais.
Donc voilà, il y a aussi le fait de dire, une femme noire et tout, vous aimez trop imposer vos choix, vous êtes trop des femmes fortes, donc c'est dur de vous satisfaire. Donc il y a eu ça aussi. Mais après, moi, en fait, au final, que les hommes noirs préfèrent d'autres femmes en soi, j'ai envie de dire que c'est leur problème. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que pour justifier leur choix, ils nous dénigrent, en fait.
Oui.
C'est ça, le problème.
Oui.
Et j'ai l'impression que dans notre communauté, en tout cas dans les communautés noires, c'est les seuls hommes qui font ça, quoi. Enfin, j'ai rarement entendu un homme blanc dire « je préfère les femmes noires parce que les blanches, elles sont ceci, cela ». Enfin, je sais pas pour toi. Hein, mais...
Je pense que, déjà, on souffre du manque de représentation.
Ouais.
Il est très rare qu'on voit à la télé ou dans les films ou dans les séries un homme et une femme noire, belle, heureuse, représenter quelque chose de positif.
Ouais. Ouais, ouais.
Déjà, on souffre de ça. Alors forcément, si après, les hommes noirs nous dévalorisent, on va pas s'en sortir, quoi.
Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est clair qu'au niveau des représentations, on n'a pas forcément... des films, des séries qui nous donnent envie d'y croire, quoi.
Bah donc, oui, qui nous montre qu'on peut être en couple avec quelqu'un de notre couleur et être heureux.
Ouais. Mais en tout cas, moi, je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, là, on va essayer pas de faire de la psychologie, mais en tout cas...
si, de la psychologie de bas étage.
Ouais, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un rapport avec l'éducation, en fait, qu'est-ce que nos parents, et plus particulièrement, qu'est-ce que nos mères nous transmettent comme image, enfin en tout cas aux hommes noirs, qu'est-ce que leur mère leur transmettent comme image? Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Ah bah si, bah je pense que complètement, enfin peut-être pas à 100%, mais je pense que le problème il commence dès l'enfance, hein, avec la représentation. La première représentation que nous ayons étant petits, c'est notre mère. Mm-hmm. En tout cas pour les hommes noirs, c'est leur mère. Donc je pense que la relation ou l'éducation de la mère vis-à-vis de son fils peut l'influencer sur ses choix amoureux, j'en suis presque certaine. Et malheureusement, je ne sais pas si tu peux te replonger un peu dans ton enfance, mais moi j'ai l'impression, hein, après c'est pas mon enfance à moi directement, mais j'ai vraiment l'impression que cette espèce de rapport avec la mère, tu sais, comme nos mères à nous, elles sont beaucoup plus... strict.
Oui, c'est vrai que niveau douceur, bon, là encore on fait des généralités, mais bon. En tout cas, nous on est d'origine africaine et c'est vrai que enfin ta mère elle va pas forcément te faire un câlin.
C'est ça.
Elle va forcément te dire je t'aime.
Exactement. Est-ce que ce manque d'amour, de démonstration d'amour, cette espèce de pudeur qui peut y avoir entre la mère et son fils dans l'enfance, ce manque d'amour et l'homme noir déjà dès le départ il voit pas sa mère comme étant un modèle d'amour? Et donc, du coup, quand il va observer, lui, par exemple, ses copains, la relation que ses copains blancs peuvent avoir avec leur mère, est-ce qu'il ne va pas envier cette proximité de démonstration dans
ouais,
les sentiments ?
Je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être une façon de voir les choses. Honnêtement, je ne suis pas totalement convaincue.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette espèce de voilà, comme bah, des petits, on n'a pas de représentation. Mm-hmm. Bah, on regarde ce qui se passe autour de nous. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, bah oui, on ne voit pas les Noirs se tenir la main dans la rue. Mmh. On ne voit pas les Noirs s'embrasser, se regarder avec envie. Les couples Noirs, non, alors qu'on le voit dans les couples Blancs. Ouais. Alors, je pense que, quelque part, ça peut s'inscrire dans le subconscient de l'homme noir, à se dire que, bah, en fait, si je veux de l'amour, si je veux être heureux, si je veux recevoir de l'amour, la femme blanche est... beaucoup plus compétente et beaucoup plus capable de m'apporter ça.
Ouais, bah je sais pas, ouais, mais tu vois ce que tu dis, par exemple, t'as aussi beaucoup d'hommes noirs qui se mettent avec des femmes maghrébines, et les maghrébins, par exemple, leur éducation, elle est un petit peu proche de la nôtre, je dirais pas totalement, mais bon, là encore, on fait des généralités. Comment tu l'expliques dans ces cas-là, tu vois ?
Ah bah là, moi, je l'explique encore autrement. Je pense que l'homme noir, mais après, ça, ce n'est que mon analyse à moi, hein. Ouais. Je pense que l'homme noir qui se met avec la maghrébine, justement, c'est pour lui un mi-chemin, je pense, entre les deux.
Ah oui.
Tu vois ? On se rapproche en termes de culture, donc du coup, t'es quand même bien dans tes pompes parce que tu te dis, bon, elle va quand même faire des grosses... Des gros plats à la maison, je vais bien manger.
Donc tu veux dire que les femmes blanches ne cuisinent pas?
Enfin, c'est pas qu'elles cuisinent pas, mais c'est sûr que le tagine, le couscous, enfin voilà quoi.
Oui, non, mais
au
je
niveau
vois ce que tu veux dire. Ouais.
Culturel, on est beaucoup plus similaires. Mm-hmm. Et en même temps, bah, la femme maghrébine, au niveau des stéréotypes de beauté, mm-hmm. Bah voilà, elle va avoir ses longs cheveux,
oui.
Elle est quand même blanche de peau, même si très mate. Donc du coup, pour moi, c'est un espèce de compromis entre
d'accord,
les deux.
Ouais, je vois tout à fait. Ok. Non, mais c'est vrai que cette réflexion sur le modèle qui nous est transmis, en tout cas la figure maternelle, c'est une réflexion qui a le mérite d'être
bah
étudiée.
Oui, non mais regarde, quand tu regardes les séries quand on était petit et qu'on voyait, je ne sais pas moi, Ricky ou La Belle Vie, toutes ces séries-là, ces familles...
Attention, la référence que tu viens de donner, là, ça donne un indice sur notre âge, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est Ricky ou La Belle Vie.
Ah bah, mais si tu connais Ricky ou La Belle Vie, c'est que tu as au moins 30 ans.
Ouais, non mais je me souviens, c'est vrai que tu te souviens, tu m'avais parlé dans un truc une fois et ça m'avait fait mourir de rire, mais j'ai remarqué que c'était un sujet qui revenait souvent, C'était de se dire que quand on était petit, t'avais toujours tes amis, genre Julien et Nathalie, qui eux avaient leur super goûter, tu sais.
Alors que j'étais traumatisée avec le goûter.
Ah non, mais parce qu'en fait, moi, ça m'a fait rire, parce que moi, pour le coup, franchement, c'est marrant, mais moi, j'ai jamais eu ce truc de « Ah, mais mes copines, donc non noires, des personnes non racisées, qui avaient des super goûters », parce que moi, dans mes souvenirs, ça va, j'avais un bon goûter. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé avec certaines copines, et elles faisaient toutes la même réflexion de se dire « Ah, oh, mais non, mais moi, j'avais des vieux goûters », je me disais « Oh là là, mais non, j'aimerais trop être blanc
!» Je pense que ça a traumatisé une partie de notre génération, mais sérieusement, quoi. Moi, j'ai des souvenirs des sorties d'école où t'avais les mamans blanches. Bon, déjà, t'as beaucoup plus de mamans blanches qui attendent leurs enfants à l'école.
Genre,
les mamans noires, elles sont trop occupées. Ça, c'est pas... Tu rentres tout seul, quoi. Tu te débrouilles, même s'il fait nuit, c'est l'hiver, on s'en fout.
Ouais.
Tu rentres seule, t'avais souvent
ça,
les mamans blanches.
Ça encore, ça dépend. Parce que moi, c'est vrai que moi, mes parents, ils étaient très protecteurs. Et moi, pour le coup, hors des questions de rentrer tout seul. Mais bon, après...
Ah bah, t'as eu bien de la chance. Hein, parce que nous, on se disait, bon, vous êtes 3-4 habités dans le même quartier, dans le même secteur. Vous vous débrouillez, vous rentrez seule.
Ah oui.
Et à l'inverse, t'avais la maman qui venait d'accoucher, la maman blanche qui venait d'accoucher, mais il n'y avait pas de problème. Hein. À la sortie d'école, elle était là avec la poussette, et puis quand t'as Benjamin qui sort, Benjamin, il a son Kinder Bueno, son
petit et toi, t'as tes vieux gâteaux secs, là.
Et toi, t'as tes vieux... Déjà, tu attends de rentrer à la maison pour avoir un peu ton goûter. Et ça, je pense que, voilà, et quelque part, ça doit commencer à inscrire quelque chose dans notre subconscient.
Ouais, ouais, non, franchement, c'est une réflexion intéressante. Hein. C'est vrai que moi, je m'étais pas forcément posé la question, j'avais pas poussé la réflexion aussi loin. Mais bah, bon.
Regarde, attends, j'en ai un autre exemple qui me vient. Et puis t'as la maman qui prend son petit dans les bras et qui lui dit: ça va, mon chéri, t'as passé une bonne journée? Bon, et toi, t'es là, tu te dis: bon, bah, ok. Moi, on me demande pas si j'ai passé une bonne journée,
oui.
Personne m'attend. Il y a cette espèce de reflet d'amour qu'on te balance au visage comme ça. T'as ça à la sortie d'école, ensuite quand tu rentres chez toi, t'allumes la télé, et puis t'as au Club Dorothée, t'as avec des petits-enfants blancs qui sont dans le public, après zappes, t'as une série où t'as une famille, ils sont super heureux, ils vivent dans une grande maison, ils sont tous blancs.
Oui.
On se fait quand même marteler le cerveau par les
Attends,
modèles
blancs. Il y avait le Cosby Show quand même. Enfin, bon, c'est vrai qu'ils étaient aux États-Unis.
C'est vrai.
Mais bon, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que, encore une fois, les représentations sont vraiment très importantes parce que au final, dans ton imaginaire collectif, au final, ça joue énormément. Et donc, c'est aussi ce qui permet après de construire tes idéaux. Et donc, après, ça peut soit te renforcer dans tes choix, ou en fait t'éloigner.
C'est voilà. Exact. Mais quand même, enfin, heureusement que le câble existait et puis qu'on avait MTV et puis Cosby Show pour nous rappeler quand même qu'être noir, c'était bien aussi, quoi.
Ouais, ouais, totalement.
Alors, du coup, pour avoir un début de pistes de réponse entre guillemets, hein. J'ai trouvé en cherchant sur internet le blog du Griot, la lettre d'une femme blanche qui s'adresse aux femmes noires et la réponse d'un homme noir à cette lettre.
D'accord, tu peux nous la lire ?
Je vais essayer de la lire.
Ok, d'accord.
C'est parti. Voici une lettre qui a été écrite à un magazine afro-américain par une femme blanche. Elle a posé une question cruciale aux hommes noirs. Cher Jamie, je suis désolée, mais j'aimerais défier certains de vos lecteurs masculins noirs. Je suis une femme blanche qui est fiancée à un beau black, attirant, éduqué et attentionné. Ce qui me dérange, c'est que je ne comprends pas tout simplement la réaction et l'attitude de certaines femmes noires par rapport à notre relation. Mon homme a décidé qu'il me voulait, parce que les options chez les femmes noires étaient trop limitées, voire quasi inexistantes. D'après ce qu'il m'a dit, les femmes noires qu'il connaissait étaient soit trop grosses, soit trop bavardes, soit trop artificielles, soit trop matérialistes, soit elles adoraient trop les palables et les ragots, ou avaient un passé trop chargé. Avant de me fiancer à mon mec, à chaque fois que je sortais, j'étais toujours courtisée par des hommes, prêts à m'offrir un verre et à me dire qu'ils aimeraient qu'on se revoie. Si les femmes noires sont tellement fâchées que nous leur prenons le peu de bons mecs noirs qu'il leur reste, pourquoi ne se regardent pas-elles un peu dans la glace? Elles devraient faire quelques petits changements. Je suis fatiguée qu'on me regarde de travers et qu'on me balance des commentaires sarcastiques à chaque fois que nous sommes en public. Je voudrais sincèrement entendre ce que les hommes noirs ont à dire à ce sujet. Pourquoi nous sommes si attirantes et convoitées par eux? Brian Gulbert vient de quitter sa femme de 26 ans pour l'une d'entre nous. Scottie Pippen, le top modèle aussi. Tyson Beckford, Quincy Jones, Kofi Annan, Wesley Snipes ont tous des femmes blanches et je pourrais continuer cette liste encore et encore. Mais en ce moment, je suis un peu en colère et c'est pourquoi j'ai écrit cette lettre précipitamment. Femmes noires, ne soyez pas en colère avec les femmes blanches parce que beaucoup de vos hommes nous veulent nous. Ressaisissez-vous et apprenez de nous et vous saurez comment mieux traiter vos hommes. De grâce, je demande à tous ceux qui liront ce message de ne pas se fâcher et de me dire avec sincérité si je me trompe et comment. Signé, une femme blanche dégoûtée. Ensuite, on a du coup la réponse d'un homme noir à cette lettre. C'est parti ?
Ouais.
Je prends le ton d'un homme ou je le fais avec ma voix ?
Écoute, on va le faire avec ta voix plutôt, je pense.
Alors, cet homme, il lui dit... Je voudrais répondre à la lettre écrite par une femme blanche dégoûtée. Laissez-moi commencer par dire que je suis un homme noir de 28 ans. J'ai reçu un diplôme d'une des universités les plus prestigieuses d'Atlanta, en Géorgie, avec une licence en gestion d'entreprise. J'ai un bon travail dans une importante société et j'ai récemment acheté une maison. Ainsi, je me considère être parmi les rangs des hommes noirs ayant réussi. Je n'emploierai pas mon temps précieux à calomnier les blancs, même si ça me démange. Je veux juste rectifier pourquoi les hommes noirs sortent avec les femmes blanches. Avant, la grande raison pour laquelle les hommes noirs sont sortis avec les femmes blanches était parce qu'elles étaient considérées comme faciles. Les femmes noires, dans mon voisinage, ont été élevées dans l'église. Elles étaient très strictes à propos de la perte de leur virginité et avec qui elles la perdraient. En raison de notre impatience d'attendre, les frères recherchaient quelqu'un qui s'abandonnerait plus facilement sans trop de disputes. Ainsi, ils se sont tournés vers les femmes blanches. De nos jours, à mon avis, beaucoup de frères sortent avec les femmes white car elles sont dociles et faciles à commander. Beaucoup d'hommes noirs, en raison des insécurités, craignent faiblesses globales, sont devenus intimidés par la force de nos femmes noires. Nous avons peur que notre femme ait plus de réussite que nous, qu'elle fasse plus d'argent que nous, qu'elle conduise des voitures plus intéressantes et possède de plus grandes maisons. En raison de cette crainte, beaucoup d'hommes noirs recherchent une femme plus docile, quelqu'un qu'ils peuvent commander. Je veux juste rectifier. Je veux qu'une fille blanche dégoûtée sache que ce ne sont pas tous les hommes noirs qui ont réussi qui sortent avec des femmes blanches. Des frères comme Ahmad Rajad, Denzel Washington, Michael Jordan, Will Smith, Samuel L. Jackson et Chris Rock ont tous épousé des femmes noires fortes et je pourrais continuer indéfiniment ma liste. Et pour retourner à ta situation, il y a des hommes blancs qui, secrètement, désirent des femmes noires plus que des femmes blanches, comme Ted Danson, Robert De Niro ou David Bowie, pour n'en nommer que quelques-uns. Je ne veux pas qu'une fille blanche dégoûtée soit mal informée. Arrêtez de penser que parce que vous êtes blanche, vous êtes une sorte de déesse. Rappelez-vous quand les reines égyptiennes, comme la reine de Saba, contrôlaient des dynasties et des armées d'hommes en Égypte, vous étiez dans les cavernes en Europe, mangeant de la viande crue ou en vous frappant la tête avec des gourdins. C'est ce qu'il y a écrit dans la lettre. Lisez votre histoire. C'est la femme noire qui vous a enseigné comment faire cuire et assaisonner votre cuisine. C'est la femme noire qui vous a enseigné comment féliciter vos enfants. C'était des femmes noires qui allaitaient et élevaient vos bébés pendant l'esclavage. C'est aussi la femme noire qui a dû supporter de voir leur père, mari et enfants battus, tués et jetés en prison. Les femmes noires sont nées avec deux choses contre elles. Être noire et être une femme. Et malgré tout cela, elle se lève toujours. C'est en raison de la force des femmes noires, leur élégance, leur puissance, leur amour et leur beauté que je ne pourrai jamais sortir avec une autre que ma reine noire. Finalité de la lettre, en fait, il lui dit « Si je cherchais une femme docile, quelqu'un sur qui je puisse marcher et commander, je vous appellerai. Mais malheureusement, je recherche une femme vertueuse, quelqu'un sur qui je peux compter, une bonne épouse et une bonne mère pour mes enfants. »
D'accord, bah écoute, je sais pas, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Après, je pense que c'est aussi particulier parce que c'est des personnes américaines, non, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, il faut m'excuser pour la lecture, hein, voilà. Parce qu'en même temps, il fallait non pas traduire, mais corriger les erreurs de traduction. Donc, c'était pas forcément évident. Et puis, à un moment donné, je sais pas si vous avez entendu, mais il emploie le terme « white ». Alors, je ne sais pas si ça a été volontairement laissé pour la traduction, mais en même temps, j'ai envie de dire un petit pied de nez à ceux qui nous disent les blacks.
Ouais, c'est clair. Bah, écoute, moi, c'est vrai que malheureusement, j'ai trouvé que ce soit la lettre de la femme noire, il y avait quand même pas mal de généralités, de stéréotypes.
La femme blanche, tu veux dire
La femme blanche, pardon. Je m'y perds avec toutes tes couleurs.
Cet arc-en-ciel.
Ouais, voilà. Mais après... Je sais pas. Franchement, je t'avouerais que je suis un peu...
Bah, en gros, la vision de cette femme blanche-là, c'est de dire que... voilà, en gros, si les hommes noirs, ils se mettent pas avec des femmes noires, c'est parce qu'on est sauvages, quoi. Globalement, on devrait prendre exemple sur elles, si on veut garder nos hommes. Et puis, l'homme noir, il lui répond en gros que non, pas du tout. Si on se met avec vous, c'est parce que vous êtes facile à dompter et... et voilà.
Oui, d'accord, ok. Ouais, non, j'avais compris. Mais après, c'est difficile de... Enfin, je sais pas si j'ai vraiment un avis, une réaction à donner, parce que bon, c'est quand même très généralisant, enfin, tout ce qu'ils ont dit, quoi.
Exactement, donc, je pense que c'est le point de vue de certains, mais pas de tous.
Oui, voilà. Après, bon, bah écoute, en tout cas, c'était intéressant.
Voilà, à méditer, hein, voilà. Hein, si les femmes noires, elles se posent des questions, elles peuvent trouver un début de réponse.
Oui. Après, oui, c'est pas forcément le même contexte, donc c'est un peu compliqué, mais bon.
Voilà, ben... c'était juste pour communiquer une petite information que j'ai trouvée sur Internet.
Bah écoute, merci en tout cas. Écoute, c'est toujours intéressant hein, d'écouter différents points de vue. Et donc voilà, pour continuer un peu dans ce Black Love à la française, en tout cas essayer de décrypter un peu pourquoi est-ce que le Black Love ne se vit pas forcément de la même façon quand on est afro-descendant en France. Moi, je m'étais aussi un peu posé la question de la place de la femme noire sur le marché de la séduction en France. Enfin, en tout cas, sur, on va dire, sur les critères, en fait, que certains hommes peuvent avoir, particulièrement en France, et comment, en fait, les femmes noires sont, au final, se retrouvent en bas de l'échelle, malheureusement. Donc déjà, en fait, moi, je vais parler d'un milieu que je connais un peu, parce que, bon, je suis musulmane, en fait, et en fait, dans la communauté, bon, dans l'islam, on part du principe qu'on est tous égaux, peu importe les couleurs.
L'amour n'a pas de couleur, oui.
Voilà, exactement. Malheureusement, en fait, on constate aussi que même dans la communauté musulmane, même si au final, si on suit vraiment la religion, il faudrait qu'on ne prenne pas en compte les origines des personnes. Après, chaque personne a le droit d'avoir... des choix qui lui sont propres.
Hein. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'une personne elle est raciste ou qu'elle est contre, enfin qu'elle n'aime pas son peuple parce qu'elle n'est pas en mode black love. Hein.
Oui,
c'est
voilà.
C'est pas non plus.
Voilà, c'est pas obligé.
Hein. Chacun, enfin, c'est les goûts et les couleurs.
Oui, voilà. Mais moi, en fait, juste, je me questionne parce que je me dis souvent, les gens disent oui, l'amour, ça ne se choisit pas, ça te tombe dessus. Mais malheureusement, je ne suis pas totalement sûre parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens. Ils intellectualisent un peu ça. Enfin, tu vois, moi, par exemple, je vais parler justement dans la communauté musulmane. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des personnes, donc des hommes, qui me disaient en gros, moi, non, en fait, je veux pas une femme noire. En fait, ils te le disent clairement. Ils veulent pas une femme noire. Ils préfèrent donc. Ils te disent souvent, c'est toujours par échelle, tu vois. Ils vont te dire alors, je veux soit une blanche, une maghrébine. Après, ils vont te dire bon, une antillaise. Genre une antillaise, bon. Oui. Voilà, c'est l'entre-deux, parce que, bon, avec un peu de chance, elle sera chabine aux yeux verts. Et au bas de l'échelle, c'est les noirs. Et encore, tu vois, c'est vraiment bon. Si vraiment, il n'y a plus rien, bon, voilà, je prends une femme noire. Et tu vois, en fait, je trouve ça triste, parce que, au final, dans la société, tu vas te dire, bon, ok, on n'a pas forcément la cote et tout. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, dans la communauté musulmane, je me disais, bon, tu vois, on est quand même censé avoir être sur un certain pied d'égalité. Et au final, on se retrouve...
Et là aussi, tu retrouves les mêmes problèmes de...
Totalement.
De racisme, c'est un bien grand mot, mais...
Ouais.
Ça veut dire... voilà, hein, ce que ça veut dire. Je préfère une autre que toi, de dénigrement, de colorisme aussi.
Oui, parce que déjà, c'est difficile, en fait, dans la communauté musulmane, de trouver des personnes qui te correspondent, tout ça. Enfin, je pense que c'est plus difficile quand t'es musulmane ou musulman... de trouver quelqu'un que quand tu ne l'es pas, parce que bon, t'as quand même certaines exigences. Mais en plus, les femmes noires, elles sont vraiment handicapées encore plus que d'autres femmes musulmanes, parce qu'elles ont encore ce critère, en fait, qui fait que, ben, je dis pas que toutes les personnes réfléchissent comme ça, mais malheureusement, t'en as quand même pas mal beaucoup. Et,
ouais, ou là, on se rend compte que, comme tu disais, normalement, dans la communauté musulmane, la seule chose qui devrait primer, c'est d'être musulman.
Oui, en tout cas, c'est la foi qui nous rallie, mais au final, on se retrouve dans les mêmes problématiques que dans d'autres sphères. Et il y a aussi un autre souci, et ça c'est vraiment plus global, c'est pas forcément spécifique à la communauté musulmane, c'est en fait le colorisme. Donc pour ceux qui ne savent pas le colorisme, en fait, c'est, on pourrait dire, c'est un concept en fait qui met en avant les personnes par rapport à leur couleur de peau, donc dans la communauté noire. Donc oui. Plus t'es clair, plus t'as des traits fins, plus t'as les cheveux souples, bouclés, ben, plus t'es valorisé, que ce soit en fait dans la société, que ce soit dans les relations amoureuses. Et ça aussi, malheureusement, c'est très très présent dans notre communauté, parce que des fois, t'as des hommes qui vont te dire « Ah, moi, ça me dérange pas du tout d'être avec une femme noire. » J'ai même une connaissance qui m'a dit « Ah, moi, je suis à fond sur les femmes noires. » Mais quand tu vois les femmes noires qu'il choisit, parce qu'il m'a quand même dit qu'il était mélanine à fond, et les femmes noires qu'il choisit, ce sont que des femmes, donc... pour la plupart, qui sont métisses, qui sont très très claires de peau, qui ont des cheveux bouclés, qui ont des yeux clairs. Bon, après, il n'y a pas de souci, hein. Enfin, je veux dire, il a le droit de...
Dehors, la femme qui est dark skin, quoi.
Oui, voilà. Tu vois, donc, en fait, ce qui est triste à dire, c'est que plus, en fait, t'es foncé de peau, plus tes traits sont un peu plus marqués, ben, moins t'as de chance, en fait. Parce qu'au final, tu peux te dire, ben, voilà, t'as des hommes qui aiment les femmes noires, mais attention, dans une certaine mesure, c'est-à-dire... Oui. Ok, t'es une femme noire, mais par contre, il faut que tu sois comme ci ou comme ça, tu vois. Et tu peux pas non plus être ce que tu es réellement, tu vois. Donc ça aussi, je trouve que c'est hallucinant. Et après, là, encore une fois, on fait un peu des généralités, mais malheureusement, on en parle, tu vois, c'est un sujet sur lequel on débat très souvent. Et ça revient, enfin, c'est vraiment une réalité. Enfin, ça revient très souvent dans la communauté, quoi. C'est assez hallucinant. Donc j'ai l'impression que les choses changent un peu. Mais bon, je sais pas, t'en penses quoi, toi ?
Je pense que les mentalités changent, comme on en a déjà parlé certainement au début du podcast. Maintenant, il se passe quelque chose, là. Il se passe un truc, là, dans les airs, là, en 2018.
Oui. Blackness.
En force. Les Noirs reviennent en force dans quasiment tous les domaines. Et je pense que là, il va y avoir... des représentations, on va être beaucoup plus valorisé. Et du coup, voilà, l'amour de son semblable va devenir plus normal, plus naturel
en tout cas. Ben, je l'espère, hein, parce que bon, après, honnêtement, voilà, chacun se met avec qui il veut, il n'y a absolument aucun souci. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est de justifier ses choix en dénigrant. Tu vois, c'est juste ça, en fait.
Ouais,
et s'il y a des hommes noirs qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire, franchement, arrêtez de nous dénigrer, parce que... Enfin, nous, on vous a rien demandé, quoi. Enfin, je veux dire, si vous avez pas envie de vous mettre avec nous, il y a absolument aucun souci, mais laissez-nous tranquille, quoi. Tout simplement. Enfin, désolé, hein, mais bon.
C'est trop triste. Du coup, j'en profite pour te poser une question. Est-ce que tu penses qu'on peut être militante et être en couple mixte ?
Quand tu dis militante, c'est-à-dire ?
Être pro noir.
Ah d'accord, être engagé dans la cause noire.
Oui, c'est ça. Être engagé, c'est ça.
D'accord. Ben moi, je sais. Enfin, c'est une question aussi qui revient souvent. C'est compliqué parce que je sais pas si toi ça te fait ça, mais des fois tu vois des personnes qui sont hyper engagées dans certaines causes et tout, et quand tu vois avec qui ils sont en couple, bah t'es un peu déçue. Tu te dis ah mince et tout. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé.
Oui. Je vois très bien de quoi tu parles.
Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. Bah en fait, moi le truc c'est que. Moi, je pars du principe que est-ce qu'on doit absolument incarner son message ? Donc, moi, je pars du principe que quand, en tout cas, tu es militant de certaines causes, donc on va dire, par exemple, de la cause noire, tu milites contre un système, en fait, au final. C'est-à-dire que quand tu milites contre le système raciste ou, par exemple, certaines dispositions en France qui peuvent... paraître raciste, pour moi, tu milites contre un système, parce qu'en fait, le racisme est avant tout systémique, tu vois. Pour moi, tu milites pas contre les Blancs.
Oui, non, mais je vois très
si
bien.
On part de ce principe-là, ben oui, t'es censé pouvoir te mettre en couple. Après, c'est vrai qu'au niveau de la représentation, malheureusement, ben...
Quel exemple on donne.
Ouais, tu vas peut-être perdre un peu en crédibilité, ce qui est dommage en soi, parce que bon, mais... C'est compliqué quand même, mais moi je dirais, parce que c'est vrai que si demain, voilà, je vois que Rokhaya Diallo, elle est en couple avec un blond, j'avoue, au premier abord, je vais être un peu surprise, parce que je vais me dire, ah ben, je sais pas, j'imaginais pas. Mais après, je sais pas, enfin, toi, t'en penses quoi en fait?
Bah, là, je suis mi-figue, mi-raisin. Avant, très franchement, j'aurais dit non. J'aurais dit une militante, c'est quelqu'un qui véhicule une idée qu'elle vit et qu'elle s'approprie elle-même. Donc du coup, pour moi, c'est un petit peu contradictoire. Mais pas impossible. Pas impossible, parce que l'amour, à la base, n'est pas censé avoir de couleur et
Oui.
c'est censé être des sentiments qu'on développe par rapport aux qualités qu'on voit chez l'autre et non pas par rapport à sa couleur de peau. Donc au fond, j'ai envie de dire que bien sûr qu'on peut être militante et être en couple mixte. Mais j'ai beaucoup plus le sentiment qu'une militante, elle s'approprie sa cause. Et du coup, elle est la plus à même de parler de quelque chose qu'elle vit au quotidien. Donc du coup, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu sinueux,
Ouais.
mais pas impossible. Et quand on voit aux États-Unis, d'ailleurs, bah, on n'a pas cette mixité.
Oui.
Les militants américains ne sont pas en couple mixte. Et puis si, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'effet que ça a eu de voir l'acteur là, de Grey's Anatomy, le super beau
Ah,
gosse aux yeux
Jesse
verts, là.
Williams.
Voilà, Jesse Williams, non mais quelle trahison, quoi. Les Américaines, elles étaient grave déçues. Il était militant, mais à 200%.
Ouais.
Il était en couple avec une femme noire. Alors là, il avait total crédit, tout le monde le suivait, il écoutait, il buvait ses paroles. Et d'un coup d'un seul, il s'est mis avec une femme blanche.
Bah, en fait,
Les
c'est vrai.
retombées, elles ont
Ouais.
été quand même. Les gens, ils n'ont pas compris.
Oui, non, non, mais c'est vrai que moi, j'avoue, ça m'a surprise quand j'ai vu qu'il était avec une femme blanche. Et honnêtement, je vais pas mentir, ça m'a déçue aussi parce que je me suis dit, mais non, mais pas toi,
Bah oui,
pas
pas toi, quoi. Un
toi.
beau gosse qui nous représente, qui parle fièrement de la femme noire.
Ouais.
Ah, on voulait pas le laisser à une femme blanche,
Oui.
franchement.
Après, le truc, c'est que lui, bon, même si en France, le concept d'être métisse n'existe pas vraiment, il est quand même métisse, toi, sa mère est blanche. Mais il se considère comme noir et je pense qu'il s'identifie comme noir. Parce que de toute façon, aux États-Unis, il n'y a pas de métisse. Mais c'est vrai qu'au final, on pourrait se dire, voilà, il a mis en avant la beauté des femmes noires, le fait qu'on soit des femmes fortes, voilà, il nous a mis en avant. Mais le truc, c'est que c'est pas parce qu'il a mis en avant les femmes noires que ça veut dire qui n'aime pas les autres femmes. Tu vois, il y a ça
Bah,
aussi.
et encore, lui, je lui accorde le droit, hein, puisque pour le coup, il est métisse.
Oui, mais bon, aux États-Unis, il n'est pas considéré comme métis, il est considéré comme noir, tu vois,
Oui,
donc
mais dans
c'est
sa sphère
pas.
familiale, il a vu des femmes blanches, il a
Oui,
évolué avec des femmes blanches. Donc on ne peut
c'est
pas lui
vrai.
reprocher
Ouais.
d'aimer la femme blanche qui fait quand même partie de son sang et
Oui, totalement.
de
Mais
sa sphère familiale.
j'avoue, franchement, bah, tu vois, là, par exemple, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'avais vu. Enfin, je regardais des photos en fait d'Idriss Elba avec sa
D'accord.
future femme et donc c'est une femme noire qui est
Ouais!
originaire d'Afrique de l'Est. Je crois qu'elle est éthiopienne ou un truc comme ça. Et j'avoue franchement, quand j'ai vu, j'étais contente parce que je me suis dit, bah tu vois, Idriss Elba, c'est aussi quand même
Ah
une
ouais, c'est
figure.
le fantasme des femmes noires, hein. Enfin, l'un des
Donc
fantasmes
voilà.
des femmes
Bon,
noires.
j'étais deg qu'il soit plus sur le marché, mais par contre, c'est vrai quand je l'ai vu avec une femme noire, je me suis dit,
Ah, ça nous fait
enfin.
plaisir quand
Ouais,
même.
après je sais pas, parce que est-ce que ça pourrait être mal pris de personnes issues d'autres communautés de se dire, bah, mais attends, mais. Parce que tu vois, par exemple, nous, on a des amis qui ne sont pas noirs et qui sont avec des hommes noirs, tu vois. Mais
Oui,
après, ça veut pas
effectivement.
dire qu'on vous interdit d'être avec des hommes noirs.
Non, ça veut juste
Mais
dire que quand un homme noir choisit de se mettre avec une femme blanche, ça nous rend fiers.
Une
Mais
femme
moi,
noire, tu veux dire?
non, une femme blanche qui se met avec un homme noir et un homme noir qui se met avec une femme noire, et ben moi, ça me rend fière. Et j'ai vraiment aucun problème à le dire. Je suis très fière
Oui,
de ça.
ouais. Non, mais tu vois, mais je pense que c'est qu'en fait, on a tellement peu de représentations qu'au final, quand ça arrive, on est trop content, quoi. En
Et
fait,
en
c'est ça.
France, on a qui justement comme couple?
Oula. Bah, on a Harry Roselmack, qui est en couple avec sa femme depuis des années. Donc, c'est une femme noire. Ils
Ah.
sont tous les deux d'origine antillaise.
Trop
On a
bien.
Lilian Thuram.
Oui, c'est vrai que lui aussi, bah tu vois, lui, il fait
Ouais.
partie des rares hommes
Ouais.
noirs à être un militant de la cause noire et puis il le démontre en étant avec une femme noire.
Oui, voilà.
Total
Et
crédit
puis,
accordé.
bah franchement, après, là, tout de suite, il n'y a personne qui me vient à l'esprit. En même temps, t'as pas non plus 10 000 hommes noirs publics en France. Parce que si on parle des footballeurs, là, je pense
Ah non,
que
c'est mort.
on va se fâcher.
On va se fâcher.
Donc, non, non, mais écoute, après, de toute façon, C'est vrai que là, on a essayé un peu de décrypter, on a essayé un peu d'expliquer pourquoi est-ce que le Black Love ne pouvait pas forcément se vivre de la même façon en France. Maintenant, c'est vrai que bon, l'amour, voilà, c'est... Normalement, t'es pas censé choisir selon la couleur de peau de ton partenaire. Mais bon, on va pas se mentir, ça joue quand même.
Bon bah voilà, de notre point de vue, on a essayé de faire un peu le tour de la question du Black Love. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques ou des questions, ou même simplement votre avis, vous pouvez nous envoyer tout ça via notre compte Instagram,
miroir_podcast.
Voilà.
Donc pour conclure, en fait, on va peut-être parler de certaines choses qui nous ont intéressées ou interpellées dernièrement.
Oui, exact, on peut appeler ça nos petites recommandations, hein, si vous ne savez pas... quoi lire ou quoi regarder à la télé.
Oui, voilà. Donc là, pour le coup, ce sera des choses à regarder, hein, parce que je pense que toutes les deux, on a un peu squatté Netflix dernièrement.
Oui, c'est exact. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, sur Netflix ?
Alors moi, j'ai vu un reportage très intéressant, enfin, un reportage documentaire, on va dire, plutôt, qui m'a assez interpellée, d'ailleurs, parce que c'est un personnage assez... controversée. Donc, c'est une femme qui s'appelle Rachel Dolezal. Je ne sais pas trop comment on prononce. Tu en as déjà entendu parler ou pas ?
Non, du tout. Elle est de quelle origine ?
Donc, c'est une Américaine. Bon, je ne vais pas raconter tout le documentaire parce que... Oui. Mais en fait, juste pour contextualiser, en fait, c'est une personne qui était une figure assez importante de la lutte pour les droits des Noirs. En fait, elle dirigeait la branche locale de la NAACP, qui est en fait une organisation pour les droits des Noirs qui existe depuis plus de 100 ans aux États-Unis. Une organisation qui est vraiment très connue. Et en fait, elle a défrayé la chronique en 2015 parce qu'ils ont découvert qu'elle s'était fait passer pour noire alors qu'en fait, elle est blanche.
Non, c'est pas vrai.
Et, ouais. Et donc, en fait, ce reportage, il est intéressant, ce documentaire plutôt, parce qu'en fait, il questionne vraiment sur le concept de transracialité. Parce qu'en fait, elle se définit comme une personne transraciale. Elle dit qu'en fait, elle est née dans le mauvais corps. Et qu'en fait, c'est une femme blanche qui est née dans le corps d'une femme noire. Donc franchement...
Ah, moi, j'ai déjà entendu ça.
Franchement, moi, quand j'ai entendu son histoire à l'époque, je me suis dit, mais elle est complètement barrée, cette meuf. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était complètement perchée. Bon, je vais pas dire le documentaire, il m'a pas forcément donné envie d'être beaucoup plus clémente à son égard. Mais en tout cas... On va dire que ça a expliqué plus ou moins. Bon, après, franchement, c'est très... je pense que c'est vraiment... Il y a vraiment un sentiment ambivalent qui se crée quand on voit son documentaire. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Rachel Dolezal, un portrait contrasté. Voilà, donc ça, c'est ma petite recommandation.
Mais attends, j'ai juste une question. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'en fait, elle est née... blanche, mais elle aurait dû être noire.
Oui, voilà. Et donc, en fait, elle s'était... si tu veux, elle se mettait des perruques bouclées, elle se mettait beaucoup de poudre pour paraître un peu métisse. Parce que, tu sais, aux États-Unis, il suffit que tu paraisses un peu métisse, voilà. Enfin,
pour qu'on te mette dans la catégorie...
Oui, voilà. Quand t'es métisse, de toute façon, c'est noir. Ouais. Et quand tu la vois, bah, tu sais pas trop d'où elle vient. Donc, s'ils lui disent, je suis une femme noire, elle dit...
À la Maria Carré, quoi.
Voilà, mais en tout cas, elle faisait même plus noire que Marie Carré. Donc, mais c'est vrai que ça a vraiment défrayé la chronique parce qu'elle travaillait quand même pour une organisation pour la lutte des droits des Noirs. Donc les gens se sont sentis trahis. Et ça met aussi en lumière le white privilège que certaines personnes ne comprennent pas. Que, en fait, quand tu es blanc, tu as des privilèges que les Noirs n'auront jamais. Et typiquement, un Noir ne pourra jamais dire « je me prends pour un blanc ». Parce que nous...
même là-dessus, ils ont le choix.
Même si on se grime le visage, excuse-moi, on sera grillé très rapidement. Donc voilà, c'était ça ma petite recommandation. Et d'accord. Donc toi, c'est quoi ta recommandation ?
Alors ma petite recommandation n'a rien à voir avec notre univers habituel et encore quoique. Il s'agit d'une humoriste qui fait des stand-up, c'est une Américaine, mais elle est d'origine asiatique. Elle s'appelle Ali Wong et franchement, elle est juste à tomber par terre. Elle a à peu près 36 ans et elle en est à son deuxième stand-up. Le premier s'appelait Baby Cobra, alors celui-ci, je ne l'ai pas vu, je suis tombée directement sur son deuxième stand-up qui s'appelle Hard Know Wife. Et en fait, elle est sur scène, elle a un ventre genre enceinte de 6 mois et elle parle en fait... mais d'un point de vue assez cynique de la femme enceinte, de toute la période de la grossesse et de tout ce qui vient après les premiers jours de la naissance de l'enfant. Et en fait, en gros, elle dit la vérité, mais en mode trash sur le mariage. la féminité, la grossesse, et c'est juste bien parce que du coup, on se rend compte que tout ce qu'on peut vivre quand on est enceinte ou quand on est jeune maman, bah faut pas avoir honte quoi. Et c'est pas forcément que drôle ou que plein de guimauves.
C'est un peu une Florence Foresti, non ? Enfin, voilà, j'ai l'impression.
C'est ça. Ça pourrait être ça. On pourrait la comparer à Florence Foresti, mais en version trash et version américaine quoi. Donc
d'accord. Imagine, et c'est disponible où ce spectacle ?
Eh ben sur Netflix.
Hein, ah, Netflix quoi, aussi.
On est connectés.
Oui, bah oui.
Mais okay. Franchement, c'est vraiment super hard. C'est assez hard. Et moi, je l'ai trouvé très bien parce qu'il est assez vrai et assez représentatif. Et surtout, il permet à la femme de déculpabiliser si elle ne ressent pas que des émotions positives pendant sa grossesse et après, quoi. Donc, pas de souci. On nous comprend, on est comprise.
Ok, très bien. Ben, je pense que sur cette note, on va mettre fin à ce premier épisode.
Ah, oh, déjà.
Mais en tout cas, merci Lisa de t'être joint à moi pour ce premier partage.
Ben, je t'en prie, ma belle.
Et puis, ben, on se dit à bientôt.
À bientôt.
Prenez soin de vous.
Bonne écoute.
Bye.
Bye.